Bonsoir et merci de suivre Radio Capice pour cette émission Tribune de la Presse. Deux sujets sont au centre de notre débat. Il s'agit de la visite à Kinshasa du secrétaire d'État américain aux affaires étrangères John Kerry. Comme deuxième sujet, nous parlerons de la poursuite des expulsions des Congolais de la RDC de Brazzaville. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana.
Bonsoir mon frère.
Nous sommes également avec Giscard Koussema, il est directeur général de la radio-télévision Canal Futur. Bonsoir Giscard Koussema.
Bonsoir.
Et nous sommes également avec Thierry Mukelekele, journaliste à la radio-télévision Jedidia de Kambove, au Katanga. Bonsoir Thierry Mukelekele.
Bonsoir et bonsoir à nos co-débatteurs.
Bienvenue à tous dans cette émission. La visite à Kinshasa du secrétaire d'État américain aux affaires étrangères John Kerry et la poursuite des expulsions des Congolais de la RDC de Brazzaville figurent parmi les sujets largement commentés par les journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Kéline Couté.
Bonsoir, l'actualité cette semaine a été dominée par la visite de travail du secrétaire d'État américain John Kerry en RDC et la poursuite des expulsions des Congolais de la RDC de Brazzaville. Le Phare nous informe qu'à l'issue de son entretien dimanche dernier avec le chef des l'État Joseph Kabila, le secrétaire d'État américain John Kerry a animé une conférence de presse à Kinshasa. Au menu, examiner le processus de paix durable dans la région des Grands Lacs et les perspectives de stabilité en RDC et dans la sous-région. Sujet faisant débat dans les microscopes politiques nationales et dans l'opinion congolaise, la fin du mandat en 2016 de l'actuel chef de l'État de la RDC et la question des limitations des mandats ont été abordées par le patron de la diplomatie américaine. Le secrétaire d'État américain a déclaré que le président de la RDC, Joseph Kabila, doit respecter la constitution du pays, explique la tempête de tropiques. Je crois que le président Kabila a clairement en tête le fait que les États-Unis d'Amérique sont intimement convaincus que le processus constitutionnel doit être respecté, a précisé John Kerry, tout en reconnaissant que Joseph Kabila est un homme jeune qui peut encore contribuer à son pays. John Kerry a insisté sur des élections libres, équitables et transparentes dans les délais et dans le respect de la constitution congolaise actuelle. Pour la référence plus, John Kerry a par ailleurs encouragé le chef de l'État congolais à travailler en accord avec le gouvernement et les parlements pour apprêter le calendrier électoral et le budget en conformité avec les textes constitutionnels en vigueur. Le potentiel révèle pour sa part que John Kerry a annoncé un important soutien au processus électoral, 30 millions de dollars américains de financement supplémentaire destinés à soutenir des élections transparentes et crédibles, de même que des programmes de reconstruction dans l'Est de la RDC. Changeons de chapitre pour parler de l'affaire expulsion des ressortissants de la RDC de Brazzaville, un autre sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre. Aucun accord sur le processus devant mettre fin à l'opération des expulsions des ressortissants de la RDC au Congo-Brazzaville n'a été trouvé entre la mission parlementaire d'information et d'évaluation de l'Assemblée nationale de la RDC et les députés du Congo-Brazzaville informent le potentiel. Selon les indiscrétions, c'est le dialogue des sourds qui s'est dégagé dès la rencontre du vendredi 2 mai à Brazzaville, entre la mission de l'Assemblée nationale de la RDC, conduite par le député PPRD Ramazani Shadari et leurs collègues de Brazzaville. La prospérité, quant à elle, rapporte que les réfoulés RD congolais de Brazzaville ne fait que croître, à en croire le rapport de la cellule des crises mise en place par le gouvernement, qui a fait rapport mardi au Premier ministre Matata Mponyo. L'Avenir rapporte qu'à l'issue du Conseil des ministres tenu mardi, le gouvernement s'est dit préoccupé par le zèle excessif affiché avec une dangereuse ostentation par un certain nombre des préposés de la République du Congo dans l'exécution de l'opération Bataille à Bakolo à l'endroit des ressortissants de la RDC. Pour donner une réponse appropriée à cette situation, le gouvernement décide de convoquer urgemment la réunion extraordinaire de la Commission spéciale Défense et Sécurité entre la RDC et la République du Congo.
Merci Kéline Couté. Joachim Diana, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. L'actualité cette semaine a été marquée aussi par un nouveau déraillement du train survenu la semaine dernière dans la localité de Kabongo au Katanga. Le bilan provisoire de cet accident fait état des 5 morts. Celui-ci est survenu quelques jours après un autre déraillement qui a causé la mort de près d'une centaine de personnes. Comment vous avez analysé cette actualité?
Bon, en fait, le nouveau déraillement vient un peu à la rescousse de ceux qui estimaient que les arguments...
Comment?
ceux qui, selon lesquels les arguments de ceux qui disaient que ce train-là était le train de marchandises, donc il ne fallait pas qu'il y ait des gens et que le problème, ce n'était pas un problème de rail, mais c'était le problème du chargement. Bon, mais maintenant, voilà un petit train, juste ce qu'on appelle train de secours, qui transportait quelques traverses et le train a connu aussi un déraillement. Voilà, là, c'est vraiment un véritable problème. On doit avoir un vrai problème du rail lui-même. Donc, le chemin de fer doit être revu totalement et même démantelé pour être réinstallé.
Oui, Joachim Diana, cette semaine, c'était aussi le verdict du procès de Minova. Un petit commentaire.
Oui, vous savez, sur ce procès-là, moi, bien que j'aie beaucoup à dire en ce qui concerne nos magistrats, mais je m'inscris un peu en faux contre tout ce qui a été fait comme commentaire selon lequel on n'aurait pas suffisamment puni. Vous savez que c'est un procès difficile. Il s'agit de viol. En ce qui concerne les viols, il faut que la violée identifie les violeurs. Et à ce que nous avons eu comme information, il n'y a eu que 3 ou 2 personnes qui ont été identifiées, 2 femmes qui ont été capables d'identifier les violeurs. Alors les autres là, on voudrait les condamner je ne sais pas sur base de quoi, qu'ils ont été violés. Mais par contre, à ceux qui ont pillé, ont été punis, c'est parce qu'on a trouvé des biens pillés dans leur caserne, et ainsi de suite. Là, c'est possible. Mais les violeurs, c'est difficile, à moins qu'on y aille, qu'on trouve des spermes à gauche, à droite, qu'on fasse des examens d'ADN, et on peut déclarer. Or, tout cela, toutes ces précautions n'ont pas été prises. Donc, j'estime que ceux qui pensent que le procès a été inéquitable, je pense qu'ils n'ont pas totalement raison.
J'espère que je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Canal Futur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, où en sommes-nous avec la relance de cette radio-télévision?
Merci beaucoup, Samuel. Nous avons toujours soutenu que l'affaire de Canal Futur a quitté la sphère professionnelle pour être véritablement une affaire d'État, parce qu'on ne peut pas s'expliquer qu'une télévision à qui on reproche un certain nombre de griefs, de manière verbale d'ailleurs, et qui s'est acquitté de tous ses droits, se voit toujours fermée. Et nous pensons que Canal Futur survivra des jougs de ses oppresseurs et nous ne ménagerons aucun effort pour que ces pays cessent de rentrer à l'époque de la pensée unique. Canal Futur est donc aujourd'hui un peu victime de règlement des comptes politiques et nous ne cesserons jamais de les dénoncer et tant que nous aurons encore cette voix, nous la porterons très haut.
Oui, l'actualité cette semaine, j'espère que ça m'a été aussi marqué par l'interpellation au Sénat du ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. Répondant à la question orale du sénateur Polycarpe Mongoulou, il a indiqué que le gouvernement congolais dispose des comptes dans les banques commerciales du pays pour financer des projets prioritaires d'investissement. Et selon Patrice Kitebi, l'existence de ces comptes n'est pas illégale. Comment est-ce que vous avez analysé cette actualité?
C'est grave parce que cela n'est pas conforme avec notre constitution. C'est en fait, cela est symptomatique d'une économie simplement exsangue. Nous sommes un pays anormal. Il n'est donc pas compréhensible que l'État congolais, qui dispose de la banque centrale qui est censée être garder les trésors de l'État, qui est de paradis fiscaux entre guillemets au niveau de banques privées, encore qu'il faut aller fouiller pour savoir à qui appartiennent ces banques. Donc c'est symptomatique simplement d'un pays malade. Mais au-delà de cette autre actualité, mais vous n'avez pas fini la chapelle de ces drames en série. On parle des trains qui ont déraillé, mais on oublie ou on parle très peu ou presque pas de ces bateaux qui se noient chaque jour sur les lacs Kivu. Et je me pose la question de savoir combien de morts finalement faut-il pour que nos gouvernants s'émeuvent. Combien de morts faut-il finalement pour que le gouvernement finalement donne ne fût-ce qu'une simple impression, parce qu'on comprend qu'il est peut-être préoccupé par des questions politiques, mais qu'on donne ne fût-ce que cette impression-là d'être protégé des drames en série dont on ne connaît ni les bilans. On annonce toujours des comités, des commissions d'enquête dont on n'aura jamais les résultats et on prend parfois des mesures dans la précipitation pour donner l'impression qu'on veut qu'on veut mettre de l'ordre dans les secteurs alors que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets.
Merci Jessica Kousema. Thierry Moukele-Kele, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision Jedidia de Kambo Veo Katanga. Quels sont les sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine au Katanga, où vous vous trouvez en ce moment-ci?
Bien, d'abord, le péage qu'on a institué depuis 2 ans sur le tronçon Likasi-Kambove, ce péage commence à coûter un peu cher sur les automobilistes. Et aujourd'hui, ce péage s'en prend même aux motards, communément appelés à Kinshasa, Wewa. Ça fait le premier sujet qui fâche les habitants du coin. Le deuxième sujet, c'est en rapport avec la maladie de choléra qui frappe Likasi, plus de 1000 cas, et les craintes sont telles que ça risque d'entacher pratiquement la cité minière de Kambove. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, on est en train de voir la possibilité avec la Gécamine qui vient de payer juste un mois sur les 3 mois d'arriérés, où les enfants sont en train d'aller déjà vers la fin de l'année et que à l'école on est en train de coincer les enfants. Principalement, ce sont les 3 faits qu'on peut signaler dans le territoire de Kambove.
Merci Thierry Moukele-Kele. Nous abordons directement notre premier sujet de ce soir. Les États-Unis appellent au respect de la Constitution en RDC. Dans un point de presse tenu dimanche dernier à Kinshasa, John Kerry a déclaré que Washington s'engage à soutenir les élections libres, démocratiques et crédibles et transparentes en RDC. Mais cela doit être fait en conformité avec la Constitution actuelle. John Kerry a pour cela invité tous les acteurs impliqués dans ce processus de se mettre au travail pour le respect du calendrier électoral. Un reportage de Mimi Ngumba Mulongo.
En vue du soutien au processus électoral, John Kerry a annoncé l'octroi de 30 millions de dollars pourvu que les élections soient libres, démocratiques et transparentes. Il a pour cela appelé à l'élaboration dans le délai du calendrier électoral.
J'encourage le président Kabila à travailler avec le gouvernement et avec le Parlement pour compléter le calendrier électoral et le budget. Cela doit être fait en conformité avec la Constitution. Les États-Unis s'engagent à soutenir le peuple congolais, le gouvernement congolais et d'autres bailleurs de fonds à mesure que l'on prendra des décisions crédibles en temps portant et en conformité avec la Constitution actuelle.
Autre point sur lequel John Kerry a insisté au cours de son point de presse, le respect de la Constitution. Il a aussi parlé de Joseph Kabila aux journalistes.
C'est un homme jeune qui a encore beaucoup de temps devant lui et il pourra encore contribuer longtemps à son pays. Et j'ai tout à fait confiance qu'il va poser toutes ses questions dans le cadre de sa décision pour son avenir. Nous avons une limitation de mandat dans notre pays. Nous avons vécu ce processus pendant des siècles et nous encourageons d'autres pays de respecter leur constitution.
Avant la rencontre avec la presse, John Kerry était reçu par le chef de l'État Joseph Kabila. D'après le secrétaire d'État américain, leur entretien avait tourné autour de la démocratie et le rétablissement de la paix.
Du côté de la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a été aussi reçu par John Kerry, a déclaré qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport au calendrier électoral. Jusqu'à Kousema, vous avez suivi ce reportage de notre consoeur Mimi Ngumba Mulongo. Quelle lecture vous faites de cette déclaration de John Kerry?
Écoutez, la lecture que j'ai fait du récent passage, disons-le comme ça, de John Kerry ici, c'est d'abord la confusion qui arrive alors que Kerry n'avait même pas encore repris son avion pour poursuivre son périple, qui a une confusion délibérément orchestrée par un membre d'un gouvernement démissionnaire. Donc je voudrais dire ici que le passage de John Kerry devrait nous interpeller tous. Faut-il qu'il y ait un secrétaire d'État américain qui vienne nous rappeler ici les respects de la Constitution? Cela pose problème d'abord. Et non seulement cela, il existe une seule Constitution, il n'y en a pas deux, à moins qu'il existe une autre version dans les tiroirs des officines. Sinon, il y a une et une seule Constitution. Et lorsque ce sont des personnalités étrangères qui viennent nous rappeler, cela devrait nous interpeller, nous. Alors, je disais que Kerry n'était pas encore parti ici, qu'il y a un problème de perception de l'information et de l'interprétation de ses propres propos. Je cite ici le ministre de la Communication et de la Presse, qui d'abord n'a pas pris part à ce tête-à-tête entre Kerry et le président de la République, qui n'a pas non plus participé au point de presse. Nous ne pouvons donc pas au jour d'aujourd'hui nous dire que tous ces grands médias, CNN, TV5, BBC, Voix de l'Amérique, Okapi, se sont trompés pour que ce soit quelqu'un qui n'a pas été là, qui a suivi des propos comme nous, des propos tenus en anglais, qui vient nous dire que sa version à lui, sa pensée à lui, c'est celle-là qui prévaut. Donc, nul ne peut donc se prévaloir du monopole des connaissances. Pour terminer donc, je voudrais dire ici que il nous appartient à nous, Congolais, de capitaliser, de lire le message à travers ces périples et qu'il ne nous appartient pas à des personnalités étrangères de nous demander de respecter la Constitution parce qu'il s'agit de la loi des lois et personne n'est censé ignorer la loi.
Joachim Diana, vous avez suivi jusqu'à Kousema tout à l'heure. Comment vous, de votre côté, vous analysez la visite de John Kerry, secrétaire d'État américain en RDC? Il a annoncé l'octroi des 30 millions de dollars américains pourvu que les élections soient libres, démocratiques et transparentes en RDC.
Oui, mais je dirais clairement, parce que je n'aime pas la langue de bois, que j'ai pas du tout compris ce que mon frère Kousema m'a dit. Je ne comprends absolument rien. Lorsque je l'entends dire qu'il ne faut pas qu'un étranger vienne nous rappeler le respect de la Constitution. Mais il nous reproche, nous les Congolais, de quoi? Il nous reproche de quoi? Kerry vient pour résoudre quel problème? Pour quelle Constitution qui était en train d'être révisée? Ou qui était en train d'être violée? Réviser, ce n'est pas violer la Constitution parce que c'est prévu dans la loi, dans la Constitution elle-même. Moi, je pense que tout nationaliste devrait plutôt faire ce reproche du côté de Kerry, que la RDC a une cour constitutionnelle qui veille sur le respect de la Constitution, l'interprétation de la Constitution, que le chef de l'État, Joseph Kabila, a reçu mandat et qu'il est le garant du respect de la Constitution. Ce sont ces garants. Mais jusque-là, le garant de la Constitution, on ne l'a jamais entendu dire que moi, je vais réviser la Constitution pour me représenter. Il l'a jamais dit. Je ne l'ai même jamais entendu de la plateforme qui a porté sa candidature. Je ne l'ai jamais entendu. Je ne l'ai jamais entendu non plus du gouvernement de la République. Je ne l'ai jamais entendu. Mais que John Kerry vienne nous répéter, mais parce que John Kerry vient consoler essayer de laver les larmes d'une certaine opposition. Et cette opposition qui croit, qui a peur qu'on va réviser la Constitution et qui, généralement, fait une fausse analyse. Cette opposition croit qu'il suffirait que Kabila ne se représente pour qu'elle gagne les élections. Non, c'est faux, justement. Elle doit travailler à autre chose, c'est-à-dire à devenir une opposition crédible, une opposition qui a ancrage réel sur la population. C'est une opposition qui parle de la population, notre population, mais sur le terrain, elle démontre qu'elle n'a pas la population avec elle. Donc, il faut qu'aujourd'hui, qu'on se demande Kerry est venu. Pourquoi? À propos de ces 30 millions, 30 millions, ça, c'est quoi par rapport à 800 millions que doivent coûter les élections? C'est encore une fois pour créer un faux problème. Il suffirait de mettre qu'il y ait une petite difficulté. On dirait, non, on avait amené 30 millions. 30 millions, c'est beaucoup d'argent. Bon, beaucoup d'argent lorsque quelqu'un vous le donne gracieusement, d'accord. Mais par rapport à nos besoins, par rapport à la tenue des élections, c'est pratiquement une goutte d'eau dans
merci.
Une mer.
Merci, Joachim Diana. Thierry Moukelekele, certains observateurs politiques se demandent ce que cache cette position des États-Unis en ce moment précis. Quel regard portez-vous sur cette visite de l'émissaire américain en RDC?
Bon. D'abord, John Kerry est secrétaire d'État. Ici, chez nous, il a l'équivalent d'un vice-premier ministre. Il n'est pas un ambassadeur ou un chargé des missions de Obama ou son porte-parole. C'est-à-dire, si John Kerry voulait dire ce que tout le monde dit, même en parlant lui-même, il aurait dit au sorti de l'entretien avec le chef de l'État. Nous connaissons comment est-ce qu'au niveau international, il jette souvent la poudre au feu. Mais John Kerry est parti du Palais de la Nation, il est allé dans une salle et il a parlé ce que les gens voulaient entendre pour laisser la tension telle qu'elle. Mais la teneur de ceux qui se sont dit pendant une heure avec le chef de l'État, personne n'est au courant. C'est-à-dire, c'est à Obama d'entendre ce que Kabila et Kerry se sont parlé. Ça, c'est de un. De deux, de la révision constitutionnelle. Ben, John Kerry ne connaît pas notre constitution. La constitution prévoit justement cette révision constitutionnelle qui doit être discutée par la classe politique congolaise associés à la société civile. Pourquoi on a peur? Je rejoins le confrère tout à l'heure qui dit que ce n'est pas le départ de Kabila qui va faire gagner l'opposition. Moi, je pense que tous les partis politiques doivent s'inscrire dans la logique de se battre pour gagner aux élections municipales, locales, et se trouver des bases politiques. Parce que le malheur avec nos partis politiques, ce sont des partis sans base. Ils sont plus dans les déclarations. Les enjeux politiques, ils n'y sont pas. Si on revient à John Kerry, il vous précise bien que le président congolais est encore jeune et il peut servir. Ça dit qu'il y a des messages qu'il faut comprendre et interpréter. Si les États-Unis ne voulaient pas de Kabila d'ici 2016, le secrétaire d'État américain devait faire comme Louis Michel face à Mobutu. Il jetait de l'huile sur le feu, il va à l'opposition, il jette de l'huile sur le feu, il s'en va en Europe, il change. Mais le message de John Kerry est un peu assez clair. Il ne s'attaque pas au chef de l'État, il demande au respect de la Constitution. Or, si nous ne voulons pas que l'article 220 ne soit pas touché, il faudrait que tous, et l'opposition, la société civile, la majorité, nous fassions le nécessaire pour atteindre les élections 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État. C'est constitutionnel. Mais s'il arrivait que nous constatons que le 19 décembre 2016, il n'y a pas eu élection, l'article 70 dit, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du prochain président élu. C'est toujours dans la Constitution. Ça dit qu'au lieu de se battre contre l'article 220, nous devons nous mettre tous au travail. 30 millions de dollars, s'il vous plaît. Rien que les élections couplées présidentielles et législatives de 2011 ont coûté près de 170 millions de dollars. Et la RDC avait fait 90% de ces élections-là. Mais si les États-Unis ne donnent que 30 millions, ça ne sera pas les espèces comme nous connaissons comment ça se passe. C'est peut-être des avions ou des observateurs et tout qui englobéront les 30 millions. Ça ne sera pas des espèces qu'on va donner à la CENI.
Merci donc, Thierry Mukelekele. Jusqu'à Kousema, vous avez suivi les points de vue de Thierry Mukelekele et de Joachim Diana. Comment notre pays peut capitaliser cette visite de John Kerry à l'approche des prochaines élections?
Je voudrais d'abord recadrer les choses et dire que je ne voudrais pas tomber dans la diversion de mes deux confrères envers qui j'ai beaucoup de respect. Nous parlons d'un sujet précis. Je ne sais pas ce que vient faire l'opposition ici. On n'est pas non plus en train de débattre sur qui va gagner l'élection, qui est plus populaire que l'autre. Je crois qu'il faut recadrer les choses. Alors, pour revenir au message de Kerry, j'ai dit qu'il ne faut pas nécessairement être un initié pour comprendre un message qui est assez clair. Je suis journaliste, je m'arrête aux faits. Kerry vient voir le chef de l'État. Il est en tête avec lui et après il tient un point de presse. J'ai vu, moi, des caméras de médias congolais. J'aurais bien voulu voir à travers le colonne de la colombe l'intégralité du message. Je ne l'ai jamais vu. J'aurais bien voulu voir à travers les télévisions congolaises l'intégralité du point de presse de John Kerry. Je n'ai rien vu. À quelques exceptions près ici, je salue le professionnalisme d'un journal comme RD Congo News qui est le seul journal à avoir décrypté, qui a donné la version française et anglaise. Donc, je crois qu'il faut recadrer les choses. Donc, pour lire le vrai message, mais il faut partir du contexte. Il faut partir du contexte. Vous pensez que l'administration américaine a ses méthodes de travail. Vous savez qu'il y a un envoyé spécial. C'est pas à Diana et à Thierry que je vais plutôt rappeler, c'est qu'il existe un envoyé spécial qui de Grand Lac qui est ici et qui a tenu des propos avant, pendant et après le départ de John Kerry, qu'il y a tout un contexte. Lorsqu'on appartient à un concert des nations, comme on l'a dit, et donc aujourd'hui, l'administration américaine, ou tout comme les autres grandes nations du monde, suivre de près tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. La question de la révision. Mais parlons-en, qui a parlé de l'inanition, révision ou inanition de la Constitution? Diana Lessé, Thierry Lessé également. Disons une chose clairement, qui ne connaît pas Claude Machala? C'est un chanteur? C'est un cadre de la majorité. Aubin Minaku a parlé. Il a parlé également sur les antennes de Radio Okapi ici, sur la question de la révision. Donc, je pense que, il ne faut pas se substituer aux politiques. Nous sommes journalistes. Nous nous en tenons aux faits et aux dits. Notre problème,
c'est... quelque part, donc, le message de John Kerry est la bienvenue, selon vous.
Mais il vient au contraire mettre fin sur un débat. Mais ce qui me gêne justement, moi je pensais que le message était clair et bien compris, c'est de comprendre que au lieu de d'intérioriser le message de John Kerry, de voir qu'il est quand même indécent que des personnes qui vivent loin d'ici se préoccupent de nous rappeler à l'ordre qu'il faut respecter la Constitution par ceux-là même qui sont censés la faire respecter, cela devrait plutôt nous gérer. Le message est clair, il appartient donc aux politiques, à chacun de nous, même aux journalistes aussi, merci, de l'intérioriser et de comprendre que l'histoire ne fait que se répéter.
Merci, Giscard Koussema. Joachim Diana, quel leçon on peut tirer de la visite du patron de la diplomatie américaine en RDC? Que pouvons-nous dégager de positif et de négatif de son message?
Oui, je commencerai par dire que j'aurais voulu que le confrère Koussema aille jusqu'au bout de la qualité de journaliste, c'est-à-dire jusqu'au bout des faits. Un journaliste, lorsqu'il cite Machala, lorsqu'il cite Boshab, il cite le président de l'Assemblée nationale, il ne cite pas le porte-parole du gouvernement, même il n'y a pas longtemps, il l'a cité quand même, mais dans d'autres, parce qu'il fallait le citer en mal à ce moment-là. Mais lorsqu'aujourd'hui, pour un journaliste, la source a toute une importance. Aujourd'hui, si toi, au nom de la radio Capi, tu me dis une chose, et je le tiens du DG ou du rédacteur en chef, ça change tout, vous savez l'importance de l'information. Il s'avère qu'à ce sujet, le coordinateur de la famille politique du chef de l'AMP l'a dit, on n'en prend pas en compte. Il y a eu le porte-parole du gouvernement, l'a dit, on ne prend pas en compte, on estime que ce qu'a dit un simple membre du PPRD est important, plus important que ça. En tant que journaliste qui se réfère aux faits, si vous mettez sur la balance, où est-ce que devrait
prendre votre
balance?
Revenons à la question posée.
Mais c'est ça le problème. Donc, vous voyez que les gens sont politiques et ils veulent nous ramener, ce sont les faits. C'est pour dire, quelles leçons nous on peut tirer? Lui-même, John Kerry, a dit ceci, qu'il y a en Afrique au moins 15 présidents de la République qui sont dans la situation des élections et où on a des présomptions de changement de constitution. Il y a des pays en face ici. Les gens s'activent à changer la constitution. Au Burkina Faso, les gens s'activent pour changer. Nous sommes dans les concerts des nations. En Ouganda, n'en parlons même pas. Au Rwanda, n'en parlons même pas. Voilà les concerts de la nation. Les concerts de la nation, c'est seulement la RDC. La RDC est quoi dans ces concerts de la nation par rapport à tous ces pays-là? J'aurais voulu, si tel était l'objectif de la présence de Kerry ici, il aurait dû faire la ronde de tous ces pays-là où il y a des problèmes. Mais je constate que Kerry a dit beaucoup de choses. Et les gens estiment que la stabilité du Congo, sur laquelle il a insisté, le développement du Congo, sur laquelle il a insisté, c'est moins important que la limitation du mandat. Et il a dit, ils l'ont fait pendant des siècles. Nous l'avons entendu même dans l'extrait qu'on nous a présenté tout à l'heure. Nous sommes une jeune démocratie, bien qu'avec ces tares. Et l'une des tares, c'est que un parti politique qui naît le matin et qui se représente le soir aux élections à tous les niveaux a des députés. C'est une tare, c'est une faiblesse de notre système électoral. On doit y réfléchir. Sinon, ça sera une démocratie au rabais.
Merci Joachim Diana, je vous garde encore dans cette émission. Thierry Moukalekel, nous terminons sur le premier sujet avec vous. Au regard de cette position américaine, que peut-on faire pour réussir les prochaines élections et sauver la démocratie en RDC?
Bon, moi je pense que nous devons avoir la tête froide. Les Américains ont modifié leur constitution près de 17 fois. Ils ont appelé ça amendement. Ça dit que toucher à la constitution, c'est prévisible dans toutes les nations. La France veut passer de la 5e République à la 6e République. Ils devront toucher à la constitution. Ce sont des discussions qui sont sur les tables en France. Ici, chez nous, il est judicieux que la classe politique discute. Il y a la diaspora qui a posé le problème d'être électeur dans les prochaines élections. Il y a la diaspora qui a posé le problème d'avoir double nationalité. Ces choses-là ne sont pas dans la Constitution. Ça dit qu'on devra toucher. Moi, là où je voulais faire réfléchir les Congolais, si nous voulons que l'article 220 ne soit pas touché, travaillons pour qu'il y ait effectivement élection. Mais nous ne travaillons plus pour qu'il y ait élection, nous nous battons contre nous-mêmes pour dire qu'il n'y aura pas élection, il y aura élection. La révision constitutionnelle, elle est à l'article 218. L'initiative est pour le chef de l'État, le gouvernement, chacune des deux chambres et une fraction à concurrence, 100 000 Congolais. Ça dit que nous devons comprendre ces choses nous-mêmes. John Kerry est venu, il a apporté ce qu'il pouvait apporter. Il pouvait nous appuyer sur les efforts à l'est du pays, sur les efforts de démocratie, comme il a dit, mais il n'a pas donné un moratoire au Congo que vous devez. Non, nous sommes sujets à des circonstances, et ces circonstances doivent nous amener à la réalité. C'est pourquoi la classe politique congolaise, opposition majorité et la société civile doivent tirer attention. Pourquoi John Kerry n'a pas convoqué des opposants? Ou pourquoi John Kerry n'a pas fait allusion à l'opposition congolaise? Voilà encore des questions qu'on remet sur la table de ce débat-là. Ça dit que quand lui reconnaît que Kabila est encore jeune et qu'il peut servir, mais il ne fait pas allusion à l'opposition congolaise, il y a des sous-entendus dans tout ça. Nous pensons que John Kerry, c'est un grand homme pour les États-Unis, pour le monde entier, parce qu'il n'arrive pas à résoudre la question de la Syrie. Ça dit que si Bachar al-Assad est encore là, c'est John Kerry qui fait que Bachar al-Assad soit là. Ce sont les circonstances qui font que Bachar al-Assad négocie avec l'opposition et voilà, ils ont trouvé une résolution pour Homs en Syrie.
Merci Thierry Moukelekel et nous passons directement à notre second sujet de notre émission. Au moins 5000 Congolais de la RDC sont expulsés de Brazzaville chaque jour et le nombre d'expulsions du 26 avril à ce jour est de 72 000 personnes. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, à Kinshasa, 3000 d'entre eux sont hébergés à l'ex-stade du 24 novembre, dont les enfants non accompagnés et de nombreux sans-papiers qui attendent l'évacuation vers leur lieu d'origine. Ce dossier d'expulsion des Congolais de la RDC à Brazzaville a justement été traité au Conseil des ministres présidé mardi dernier par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Selon Lambert Mende, son porte-parole, le gouvernement dénonce la violation par le Congo-Brazzaville des conventions internationales et régionales en la matière et les conditions dans lesquelles ces personnes sont expulsées. Kinshasa exige aussi la convocation d'une réunion extraordinaire de la Commission de défense et sécurité entre les deux pays. Écoutons ce sujet, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais au micro de Radio Okapi.
Nos compatriotes subissent des exactions, des extorsions, des tortures et des lynchages de la part de certains éléments de la police et des bandes de jeunes xénophobes de la République du Congo-Brazzaville. Face à cette situation, nombre de Congolais de la République démocratique du Congo, en ordre de séjour au Congo-Brazzaville, ont décidé de quitter volontairement ce pays pour éviter l'humiliation et les brimades, renonçant de la sorte par contrainte à leurs droits. À la date de lundi 5 mai 2014, 71 407 compatriotes ont été expulsés du Congo-Brazzaville par le Bitchingobila à Kinshasa. Certains autres ont été expulsés par des postes frontières hors de Kinshasa, 37 dans la province du Bandundu et 231 dans la province du Bas-Congo, ce qui donne un total de 72 731 personnes refoulées du Congo-Brazzaville.
Il faut noter que la situation humanitaire des expulsés du Congo-Brazzaville entassés au stade Cardinal Malula et dans la cour de la maison communale de Kinshasa est déplorable. Arrivés à ces endroits depuis samedi dernier, tout se passe la nuit à la belle étoile, à peine une bâche pour plus de 1000 personnes, pas de tente pour s'abriter. Malgré l'installation des latrines mobiles et la présence des services de salubrité sur le site, le nombre de ces expulsés ne fait qu'augmenter au jour le jour et perturbe toute prévision. Berry Fontaine Louchaka est descendu sur les lieux et nous décrit la situation.
Les retournés de Brazzaville vivent dans des conditions humanitaires très déplorables. Ils sont hébergés dans la commune de Kinshasa au stade Reine Astrid, ex 24 novembre, en face de la maison communale de Kinshasa et dans l'enceinte même de cette maison communale. Dans ces deux stands, les retournés manquent de tout. Au stade Reine Astrid, par exemple, on retrouve un seul chapiteau planté sur le terrain de football pour des centaines de personnes dans l'enceinte du stade. Pas de nourriture convenable, trois installations hygiéniques, dont deux toilettes et une douche pour ce même nombre de retournés. Dans les gradins, on peut apercevoir des mousses, habits et même abris de fortune dans lesquels habitent ces retournés. Dans l'enceinte de la maison communale de Kinshasa, là, on ne trouve aucun chapiteau. Chaque famille se débrouille à sa manière pour fabriquer des semblants d'abris avec des pagnes et des bâtons de fortune. Ce sont des femmes et des enfants, y compris des jeunes gens qui s'y entassent, à se demander comment ils font au moment des intempéries. Côté nourriture, c'est un pain de 200 francs qui leur est donné chaque jour entre 15h et 16h, accompagné d'une bouteille d'eau de 500 ml. Pas suffisant pour atténuer la faim. Conséquence, certains jeunes se sont donnés à mettre la propreté dans le stade, par exemple, en coupant de l'herbe, avec espoir qu'ils puissent bénéficier d'un peu d'argent pour se nourrir. Face à cette situation, les autorités communales affirment que c'est une calamité qui est tombée, je cite, « comme un cheveu dans la soupe », fin de citation, et donc, le gouvernement central, tout comme provincial, ne s'y était pas préparé. Cependant, la prise en charge, selon les mêmes autorités, se fait assez normalement. On note par exemple la présence des cliniques mobiles pour prendre en charge des cas de maladie et le départ de la plupart des ressortissants du Bas-Congo, du Bandundu et ceux qui avaient des familles ici à Kinshasa. Le cas le plus difficile pour l'instant, c'est assurer le voyage des ressortissants de l'Équateur qui sont majoritaires et de la province orientale qui sont minoritaires parce que les moyens des transports coûtent beaucoup plus cher, affirment certaines autorités.
Il faut noter que l'OIM se dit par ailleurs disposé à appuyer le gouvernement dans l'acheminement de ses expulsés vers le Bas-Congo et l'Équateur. Joachim Diane, quelle lecture vous faites d'abord de cette situation d'expulsion des Congolais de la RDC de Brazzaville? 5000 expulsés chaque jour, c'est quand même trop.
Oui, vous savez, nous l'avons plus d'une fois dit que le gouvernement congolais est souverain. Il peut demander à tous les ressortissants d'un pays de partir. Ça, c'est leur souveraineté. Mais que cette opération s'appelle Mbata Yamokolo, c'est-à-dire quoi? La gifle qui fait mal. A-t-on besoin de faire mal à quelqu'un qu'on voudrait voir quitter votre pays pour rentrer chez lui? Ben, je pense que là, l'intention, la violence est déjà dans l'intitulé même de l'opération. Je pense que il faudrait que le gouvernement congolais prenne ce problème très très au sérieux. C'est une raison valable pour fermer cette frontière et pour toujours. Parce que lorsqu'on tient compte de toutes les conventions signées ensemble entre les pays, on est membre de la CEAC, avec qui a comme objectif la libre circulation des personnes, des biens dans l'espace. Et encore que le NEPAD nous lance un projet de lancer un pont entre les deux. Moi, je pense que pour le moment, on doit abandonner le projet du pont. C'est maintenant le projet d'un mur qu'on doit. On doit maintenant ériger un mur. Si un mur physique n'est pas possible, mais qu'il y a un mur psychologique, qu'on nous enseigne plus à nos enfants, non, et Baléa Congo, et Zali Nzela, et Zali Lopangote, mais c'est tout à fait un enclos, il faut que ça devienne un enclos, et que pour aller à Brazzaville, comme merci, on peut, comme on va partout, qu'il y ait des conditions, qu'on renforce des conditions, qu'on ait un visa et un passeport, comme ça, on évitera que n'importe qui puisse aller là-bas avec un simple laissez-passer et y rester.
Merci, je rappelle que nous sommes à 5 minutes de la fin de cette émission. Jusqu'à ce moment, je vais vous demander des réponses vraiment brèves. Après le conseil du ministre, qui s'est tenu mardi dernier à Kinshasa, le gouvernement de la RDC a dénoncé les conditions dans lesquelles cette opération de reflouement s'est déroulée et les violations par la République du Congo-Brazzaville des conventions internationales en la matière. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour une telle déclaration après ces expulsions?
Oui, au vu de la gravité des faits, on aurait voulu que le gouvernement aille un peu plus loin, sortir de cette fatalité avec une simple dénonciation pour prendre réellement des décisions. Comme l'a dit Diana tout à l'heure, cette opération a été prémédité, préparé minutieusement. Alors qu'il y a un texte signé de 99, à l'époque où, bien sûr, même si Mende était encore en rébellion, c'était en 99 ici, au moins il a pris connaissance que ce texte dit lorsqu'un pays veut expulser de ressortissants d'un autre pays, il doit l'en informer. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce que la République démocratique du Congo ou son gouvernement était-il informé? Rien du tout là-dessus. Et puis encore, la cruauté, on le sait, ressort déjà à travers le nom donné à cette opération, mais il y a lieu de craindre les pires. Aujourd'hui, en pleine ville capitale où il y a déjà énormément de problèmes de santé publique, il y a 5000 personnes qui viennent chaque jour, on arrive à une simple dénonciation. Mais c'est grave. Cela montre au moins, disons, la légèreté avec laquelle nous... Parfois, nous faisons face à certaines situations. Pour 200 lycéens qui ont été pris en otage, on voit comment le gouvernement, au niveau du sommet de l'État, est en train de se battre pour chercher à faire parler le monde entier.
Alors, que faire pour prévenir ces genres de catastrophes à la longue?
Pour prévenir, il faut d'abord au niveau de la population. Vous savez qu'il n'y a même pas de statistiques pour savoir combien de Congolais vivent, même pas à Brazzaville, mais à l'étranger. Normal, parce que pour un pays comme le nôtre, on n'a même pas de carte d'identité. Deuxièmement, comment vous pouvez-vous comprendre pour une situation comme celle-là qu'on attende près d'un mois pour que le gouvernement enfin parle de cette situation au niveau du Conseil des ministres sur le terrain? Il existe tout de même un ministère des Affaires humanitaires. On ne voit personne. Mais c'est très grave simplement. Et c'est très très grave. Cela montre la légèreté avec laquelle donc nous ne donnons pas de la valeur à nos concitoyens. Et nous disons qu'il y a pire qui attend la ville de Kinshasa, parce que gérer plus de 80 000 personnes jusque hier, parce qu'il y a encore des cargaisons qui sont passées ce matin ou qui passent encore en ce moment. Donc il y a lieu de craindre le pire. Je suis passé ce matin, il y a 3 femmes qui ont accouché dans des conditions misérables.
Thierry Moukele, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Nous allons vous demander des réponses brèves. Comment d'abord vous avez analysé cette situation des expulsés de l'RDC de Brazzaville? Car il ne suffit pas seulement de dénoncer, comme l'ont dit les autres confrères. Et que peut-on faire pour prévenir ces genres de catastrophes humanitaires à l'avenir?
Oui, d'abord, j'apprécie l'attitude du chef de l'État et du gouvernement de ne pas aller dans l'agitation. Parce que, vous savez, c'est un problème de sécurité internationale. Ça pouvait nous prendre au revers si jamais le président de la République passait à la télé pour montrer son mécontentement. Ça dit que les Congolais pouvaient aussi réagir, mais non seulement contre les Brazzavillois, mais contre tout étranger. Et nous aurions eu des problèmes avec toutes les ambassades en République démocratique du Congo. Et enfin, dans le monde, nous aurions eu des problèmes. Moi, je pense que le gouvernement est calme, c'est bien d'observer. Mais sur le plan sécuritaire, il était souhaitable de faire le suivi, tous ces mouvements des gens qui sont arrivés en République démocratique du Congo. Et cette situation, nous commençons à la prévoir au Katanga, parce que nous avons les frontières de la Zambie, de l'Angola, qui sont des frontières très sensibles aussi. Et il y a beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans les deux pays. Et souvenez-vous du débat de tout à l'heure. C'est la conséquence, parce qu'au Congo, Kinshasa, il y a une culture de démocratie. Mais au Congo de Brazzaville, la démocratie est mitigée. Alors, le comportement du Congolais de Kinshasa influe sur celui du Congolais de Brazzaville. Alors que eux, ils ont besoin d'avoir une accalmie et faire la passation de leur modification de la Constitution calmement. Et cette fois-là, ça leur pose problème avec le Congolais de Kinshasa. Et c'est comme ça qu'ils s'en prennent à ces gens-là. Vous verrez, après les élections, ils viendront pour rétablir les relations, parce qu'ils auront déjà fait leur coup déjà.
Merci Thierry Moukele, nous considérons cela comme étant votre conclusion. Joachim Diana, en 30 secondes, que pouvez-vous proposer comme solution à l'avenir?
Oui, en ce qui concerne le problème de Brazzaville, je crois, j'ai dit aussi, ma conclusion, c'est que on doit considérer Brazzaville comme un pays étranger. En ce qui concerne le premier débat, Et on doit cesser la confusion entre le départ de Kabila et la révision de la Constitution. Kabila peut dire « je ne me représente pas », mais la Constitution peut être révisée. Tout comme on peut réviser la Constitution, on ne doit pas tailler la Constitution sur mesure. Voilà ce que je voulais
dire. Chika Kusema, un mot pour la conclusion.
Instabilité politique ou refoulé de Brazzaville, le drame en série, c'est symptomatique d'un pays simplement malade. Il est donc temps que le politique se ressaisisse. Il appartient donc au chef de l'État de prendre la mesure de ses responsabilités, de mettre tout le monde autour d'une table, parce que le pays va très mal. Et à l'allure où vont les choses, nous risquons de nous retrouver dans une situation beaucoup plus difficile encore.
Merci, c'est la fin de cette émission. Alain Goy était à la technique, Kelim Kouté à la réalisation de cette émission. Samuel Kachok vous l'a présenté sous la supervision de Pelé Kipelamondo. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.